Chapitre 5 Sociétés en commandite. À quelques jours de la scène que nous venons de raconter, Michaud était installé dans un magnifique bureau, attenant d'un côté au cabinet de M. de Létiol, industriel fameux, de l'autre à un immense corridor sur lequel s'ouvraient 7 ou 8 chambres numérotées. Là, une armée de commis causait de la pièce nouvelle ou des événements du jour, en travaillant Dieu sait à quoi. Tout dans cet appartement avait un air d'ordre et de régularité qui, au premier coup d'œil, faisait plaisir à voir. Il était évident qu'on avait mis un soin minutieux à arranger les divers éléments qui remplissaient chaque salon ou chaque bureau. C'était des pyramides de carton superposées symétriquement, des plans appendus au mur dans leur cadre sévère d'ébène arrondi, des cartes en relief, des rayons de bibliothèque, où reluisaient, dans leur riche reliure, tous les ouvrages de nos célèbres juristes consultes. De toutes parts, enfin, un parfum d'affaires, un grand air d'opulence. C'est là que s'était installé M. Danglade, devenu M. de Létiol, à la suite de sa conversation avec l'honnête Michaud. M. Danglade était un fripon émérite, mais un fripon sans grande habileté. Il voyait le danger, mais il n'avait ni l'énergie ni l'adresse nécessaire pour lui faire tête ou le conjurer. Le secret de sa réussite première était tout entier dans l'honnêteté de sa physionomie, dans la grâce décente et distinguée de ses manières, jointes à un tact suffisant pour chercher ses dupes là où ses qualités pouvaient agir le plus efficacement. Il n'avait point de petits actionnaires. Ayant eu l'entrée par hasard dès l'abord dans une grande maison du Faubourg Saint-Germain, il avait étendu ses relations avec un merveilleux bonheur. Il n'avait pas tardé à faire de nombreuses dupes. Ses exagérations industrielles, comme ses fables politiques, avaient été prises au pied de la lettre, et en 2 ans, il organisa 5 sociétés en commandite et réalisa la presque totalité de leurs actions. Mais une fois lancé dans le tourbillon industriel, il lui fallut soutenir la concurrence de luxe et d'ostentation de ses pairs. Il devint fastueux et de l'or, faisant vibrer dans le cœur de ses nobles dupes une autre corde que celle de la sympathie. Il promit monts et merveilles, des intérêts magnifiques, des dividendes fabuleux. Et bien que l'avidité mercantile ne fût pas portée au point où nous la voyons maintenant, ses promesses ranimèrent la confiance. Il est si doux, voire pour un ancien duc et pair, de tripler son capital. Et bien des millions lui étaient passés déjà par les mains. Mais il ne faut pas croire que le plus habile fripon du monde puisse garder tout ce qu'il reçoit. En bonne piperie industrielle, le grand principe au contraire est de rendre à propos pour recevoir davantage. L'habileté consiste à se retirer avec le plus d'argent possible, mais pour cela, il faut que la confiance ait duré quelque temps. Il faut par conséquent avoir entretenu cette confiance, soit par un train de bureaux et de maisons somptueux, soit par le paiement exact d'intérêts et de dividendes savamment calculés. Et Létiol avait fait tout cela. Et lors de l'arrivée de Michaud, il espérait se retirer bientôt avec une fortune considérable. Après son association forcée, il avait encore compté prendre ce parti, mais Michaud, qui avait goûté l'opulence, n'était pas homme à se contenter même des 100 000 francs qu'il avait d'abord demandés. Il s'imposa définitivement à Létiol et dès lors la ruine de cette maison se put aisément prévoir. Michaud était entêté en même temps qu'incapable. Il engagea son associé dans une entreprise que celui-ci n'osa refuser. Au moment de faire rafle, il doubla l'enjeu. Et puis, Danglade avait été atteint par la fièvre de cette époque. Il jouait à la bourse. De 3 à 4 heures, il ne bougeait pas du palais de la Gio. Il en connaissait toutes les ruses, toutes les infamies. Il jetait dans ce jeu infernal des sommes considérables, qui quelquefois se multipliaient dans ses mains, mais qui plus souvent s'évanouissaient au jour du paiement des différences. Mais les fripons, leur vanité, tout comme les honnêtes gens. Danglade aimait ce bruit, ce mouvement, ce monde qu'il trouvait sous les colonnes corinthiennes de la bourse. Il y était très connu et considéré. On le saluait de loin. On se rangeait pour le laisser passer. On s'entretenait de ses succès. Et il était fier de cette considération équivoque qui s'attache à l'homme heureux. Danglade jouait donc. C'était pour lui plus qu'une distraction, c'était l'oubli. Quoi qu'il fît, et bien que la prospérité éclairât la route qu'il suivait, son passé le suivait toujours comme son ombre. Le remords, c'est le boulet moral que le criminel traîne après lui avant d'aller au bagne. Nature vive, impressionnable, sans profondeur, Michaud avait toutes les habiletés, tous les talents qu'exige une vie d'aventurier. Il était parvenu à se composer un extérieur en harmonie avec la position qu'il avait usurpée, et les bons actionnaires auxquels il avait fait affaire se félicitaient à l'envi d'avoir placé leurs fonds entre les mains d'aussi braves et honnêtes gens. Michaud était cependant un gredin de la pire espèce. Il avait déjà rendu à l'étiole des services de plus d'un genre, et c'était une des raisons pour lesquelles celui-ci ne pouvait se résoudre à rompre avec lui. L'eût-il voulu, d'ailleurs, il n'aurait probablement pas pu. Ces deux hommes étaient fatalement liés l'un à l'autre par un crime commun, et ils craignaient l'un et l'autre une trahison réciproque. Il y avait cependant cette différence entre deux, c'est que Michaud était décidé à tout, à la première velléité d'hostilité de la part de M. Danglade, tandis que ce dernier flottait irrésolu entre 1000 projets qu'il n'avait pas le courage d'exécuter. Danglade avait une fille et il l'aimait. Dieu avait placé près de lui cet enfant pour qu'elle fût son remords de tous les instants. Rien, pendant quelque temps, ne troubla la paix du ménage de Michaud et de Danglade. Mais le premier couvait une idée. Il fallait bien que tôt ou tard, il en fît part à son associé. Le jour où nous reprenons ce récit, Michaud était assis nonchalamment dans une pièce attenante à celle qu'occupait d'ordinaire son associé Danglade, et il se curait les dents avec une satisfaction mêlée de quelque peu d'impatience. À chaque instant, son regard se tournait vers la porte du cabinet de Danglade, d'où quelques mots d'une discussion engagée à voix basse, mais vivement soutenue, arrivaient jusqu'à lui. Enfin, les fauteuils roulèrent sur le parquet de la chambre voisine, on prit congé à voix haute, et la sonnette de Danglade retentit presque aussitôt. « Eh bien !» fit Michaud en entrant. « Va vite à la caisse !» répondit Danglade, dont le visage parut resplendide. « Et ordonne qu'on paie à bureau ouvert les intérêts et dividendes de l'ouest de la France. « Mais, objecta Michaud, va, te dis-je, et reviens tout de suite. » Monsieur de l'Étiole ou Danglade se renversa sur son fauteuil après le départ de son acolyte. « 6% d'intérêt, murmura-t-il avec une sorte de complaisance, 14% de dividendes, donc 20%. Oh, voilà un joli bénéfice pour ces messieurs. Voyons, sur 1 500 000 francs d'actions prises, cela fait 300 000 francs. Oh, diable, c'est un peu cher. » Michaud rentrait dans ce moment. « Mais sais-tu que c'est 300 000 francs que tu jettes par les fenêtres ? dit-il en entrant. « Oui, je viens de le calculer, cela fait réellement 300 000 francs, » répondit Danglade. « Mais nous n'avons en caisse que 20 000 francs écus et une trentaine de billets de banque. »« C'est égal. »« Comment c'est égal ?»« Michaud, je viens de gagner 1 200 000 francs. »« Toi ?» dit celui-ci d'un air incrédule et en se rapprochant instinctivement de son associé. « Oui, les 8 principaux actionnaires de la Société de l'Ouest de la France pour la recherche et l'exploitation. »« Oui, je sais le prospectus, après, » interrompit brusquement Michaud. « Mais les 8 principaux actionnaires m'ont fait l'honneur de venir me voir ce matin. » « Après, j'avais si peu l'intention de leur payer leurs intérêts et dividendes que j'ignorais jusqu'au jour de l'échéance. » C'était aujourd'hui. Diable ! À la première ouverture, comme de raison, j'ai dit que j'étais prêt. Oh, tu as de l'aplomb ! Alors ces messieurs se sont consultés. Je n'ai pas même eu la peine de leur proposer. Vrai, je ne sais si j'en aurais eu le courage. Ces messieurs se sont consultés et ravis de notre exactitude. Ils m'ont proposé d'émettre 1 500 autres actions qu'ils ont absorbées immédiatement avec une avidité méritoire. Michaud n'avait pas attendu la fin de la phrase. Il s'était levé et parcourait la chambre en se frottant les mains. « Bon, 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 oh, bon » criait-il dans un véritable transport de joie. « Mais tu es un grand homme, Danglade !»« Chut !» interrompit celui-ci. « Ne prononce jamais ce nom. » « Oui, c'est juste, tout ce que tu voudras. Vous êtes un grand homme, monsieur de l'Étiol. Vous êtes un grand homme, mon honoré patron. » Puis, se rapprochant tout à fait, « Ah ça » continua-t-il, « bien voilà qui nous met en fond pour notre société à nous. » Le front de monsieur l'Étiol se rembrunit tout à coup. « Michaud, dit-il, nous avons déjà 5 sociétés. Les employés nous ruinent. »« Mais je n'en ai pas une, moi, mon bonhomme. »« N'es-tu pas mon associé ?»« Oh, pas assez. » Et Michaud, frappant tour à tour sur les cartons élégants qui couvraient le bureau de palissandre, continua. « En moins le temps qu'il n'en faut pour les inventer, dit-il. » Tu as créé 5 sociétés qui représentent des capitaux énormes, incalculables. Ici, ce sont les canaux du centre, 500 000 francs, dont 200 000 sont déjà souscrits. Plus loin, les pompes d'hydraulique qui nous ont rapporté plus de 150 000 francs. Là, les minorifères. À côté, les cuves de la province de Constantine, enfin l'ouest de la France, le Grand Ouest, qui à l'heure qu'il est représente près de 3 millions de capital. Voilà notre richesse, c'est beau. Cela promet, je conviens que je devrais me contenter de cela. Mais que veux-tu, mon petit? J'ai ma toccade, j'ai l'amour de la propriété. Je veux avoir ma commandite à moi, tout seul, mes actions à moi. La société Michaud et compagnie, quoi. Comprends-tu? Mais c'est de la folie! Fit de l'Étiol atterré. Possible. Mais ce sont des frais des dépenses. On use son crédit à un pareil métier. Puis un jour, les actionnaires se lassent, s'inquiètent, la défiance s'en mêle, et la faillite arrive. Bon, la faillite vous prévient toujours d'avance, objecta Michaud avec insouciance. On a le temps de mettre du foin dans ses bottes. Et l'on file un beau matin par le chemin de fer, sans se donner la peine de saluer ses bijoux de commanditaire. Tu es cynique, Michaud. Oh, harbleu, je te conseille de faire la bégueule. Ce que tu veux est impossible. Allons donc. Tu sais bien que je n'aime pas être contrarié. Je n'y consentirai jamais. Oh, c'est ce que nous verrons. Et en parlant ainsi, Michaud se rapprocha de l'Étiol et lui dit à voix basse, À moins que tu l'aimes mieux que je m'en explique avec la petite. Ma fille, s'écria le malheureux père. Mais c'est une idée. Misérable. De gros mots, allons. Tu ne sais prendre que le côté violent des choses. Mais c'est toi, plutôt, qui abuses de la position pour nous perdre tous. Michaud haussa les épaules et se mit à jouer avec le manche d'un couteau d'ivoire, tandis que de l'Étiole, en proie à la plus vive agitation, était allé s'accouder, frémissant de colère, sur le marbre de la cheminée. Oh, pour un rien, il eût tué son associé. Cet homme était son démon familier, sa mauvaise chance, son mauvais génie. Sans lui, il eût pu être heureux, vivre avec sa fille, se retirer avec elle, loin des dangers que l'avenir lui réservait peut-être. Mais Michaud présent, tout était remis en question. Malheureusement, de l'Étiole n'était pas l'homme des résolutions promptes, et il comprenait bien lui-même qu'il n'aurait jamais l'énergie nécessaire pour dompter un pareil homme. Il se sentait fatalement enfermé dans un cercle étroit et se demandait avec effroi s'il lui faudrait vivre éternellement avec une si redoutable menace suspendue sur sa tête et sur celle de sa fille. Mais tout à coup, une idée lui vint à l'esprit et avec cette facilité à se faire illusion qui est le propre des natures faibles, il se crut sauvé. Un sourire vint éclairer son visage. « Voyons, » dit-il alors à Michaud, qui continuait de jouer avec le manche de son couteau, « tu tiens donc beaucoup à ta société ?»« Oh, j'y tiens, oui, » répondit Michaud. « C'est toujours la même. »« Oui, toujours. »« Société Michaud et compagnie. » Oui, pour l'exploitation des gisements orifères de l'Algérie, compléta l'associé. Ben, au fait, c'est peut-être une bonne affaire, reprit de l'Étiole. Mais excellente, l'Algérie est à la mode, c'est si tentant d'avoir de l'or à la portée de la main. Tu as raison. Ah, tu y viens donc. Peut-être, à la bonne heure. Ben, écoute, nous allons lancer l'affaire. 1500 actions de 1 000 francs chacune. Pour ma part, j'en prends 300. Content, fit Michaud, qui ouvrit l'oreille. Content, répéta de l'Étiole avec une indifférence feinte. Tu les as donc ? Bon, je les trouverai. Et tu me les donneras ? Mais à une condition. Laquelle ? C'est que le siège de la nouvelle société sera fixé à Alger et que le gérant sera tenu d'y résider. Michaud cessa de jouer avec son couteau et regarda de l'Étiole. « Oh, dit-il d'un air ironique, oh, mais est-ce une idée, cela ? Tu y trouves ? Fit son interlocuteur un peu embarrassé. « Et c'est toi qui l'as imaginé tout seul. Et tu as cru que je donnerais dans le panneau ?» Cependant, Michaud se leva, rejeta sur la table le couteau qu'il avait à la main et enveloppa son associé d'un regard plein d'audace et de résolution. « Écoute, dit-il, d'une voix ferme, tu veux jouer au fin avec moi et franchement, cela ne te va pas. Je te le dis bien sérieusement, mon bonhomme. Si jamais l'envie te prend de te débarrasser de moi, tâche au moins que je ne m'en doute pas, car cela pourrait te jouer un mauvais tour. Là-dessus, je te salue et je te dis à bientôt. » Et sur ces mots, il sortit du cabinet, laissant de l'Étiole interdit et encore plus embarrassé qu'auparavant. Chapitre 6. Une rencontre. À défaut d'un grand esprit, M. de Lithiol avait de l'expérience et il se sentait glissé sur la pente. Quant à Berthe, son rêve se trouvait réalisé comme par enchantement. Au premier étage du magnifique hôtel dont les bureaux de son père occupaient le rez-de-chaussée, la jeune fille trônait, entourée de tous les délices que peut donner l'opulence. Et en vérité, on eût dit que toute sa vie, ses jolis petits pieds, chaussés de satin maintenant, avaient foulé les tapis d'Aubusson. Ses yeux s'arrêtaient avec une satisfaction calme, sans surprise, sans transport de parvenu, sur les riches tentures de son boudoir. Elle drapait son cachemire de 500 louis, comme autrefois son petit châle de bourre de soie, avec grâce et simplicité. Grande dame, elle était ce qu'elle avait été pauvre fille, convenable, charmante. Elle avait bien un peu pleuré en quittant la rue de l'Ouest, mais au détour de la rue de Vaugirard, un riche équipage l'attendait. Elle ne pleura plus. En montant l'escalier de marbre de l'hôtel de la Chaussée-d'Antin, l'image de Lucien se voila dans son cœur. Et lorsque, arrivé au premier étage, son père, lui montrant son délicieux boudoir, lui dit « Berthe, voici votre chambre !» Le souvenir de l'artiste disparut complètement. Berthe avait aimé Lucien à sa manière, mais une seule chose en elle absorbait tout le reste. Le luxe était son élément. Tout souvenir entaché de misère la blessait. Or, elle voyait Lucien plus pauvre encore qu'il ne l'était réellement. Sa société actuelle se composait exclusivement de riches et nobles héritières. Et la nature avait doué Berthe de tout ce qu'une éducation supérieure pouvait avoir donné à ses compagnes. Loin de faire tâche au milieu d'elle, la fille de l'industriel les dominait en beaucoup de choses et brillait par-dessus tout par sa beauté. Au moment où nous la retrouvons, elle avait déjà une amie et presque un mari. Mademoiselle Émilie de Nogent et monsieur le comte de Nogent, son frère. Aymar, à la première vue de Berthe, avait été frappé comme d'un souvenir. Quelque chose lui disait qu'il avait déjà vu quelque part cette figure angélique, ses formes pures, cette attitude gracieuse. Mais il ne put parvenir à se rappeler l'atelier de Lucien et la statuette voilée. L'amour d'ailleurs l'avait aussitôt pris au cœur et ne lui avait pas laissé le temps de réfléchir. Mademoiselle de Nogent, pâle et aristocratique figure, et cependant nature ardente et enthousiaste, s'était de son côté sentie attirée vers Berthe, qui elle-même la préféra beaucoup à ses autres compagnes. Mademoiselle de Lithiol était si expansive en apparence, son cœur égoïste et frivole se cachait si bien derrière l'éloquente vivacité de son langage, vivacité augmentée encore par un léger accent méridional. Sa conversation était chaude, originale, piquante. Qui donc aurait pu deviner le défaut d'âme sous ses saillies brillantes et redoublées? Entre jeunes filles, les confidences suivent de près l'amitié, quand elles ne la précèdent pas. En échange des petits secrets d'Émilie, qui confia la première ses rêveries vagues, son instinctif besoin d'aimer, Berthe détacha quelques épisodes de son roman de la rue de l'Ouest, en ayant soin de déplacer la scène. Elle raconta l'amour timide et puissant de Lucien, elle montra même ses vers. Émilie s'exaltait naïvement à ses récits, et quand, plus naïvement encore, elle s'étonnait de la cruauté de son amie, « Mais je ne l'aimais pas !» répondait hypocritement Berthe. Après une ou deux longues causeries sur ce sujet, Mademoiselle de Nogent se mit à penser à l'artiste, peut-être plus souvent qu'il n'était nécessaire. Mademoiselle de Nogent n'avait plus dans ce monde que son frère, et elle l'aimait avec ce dévouement expansif et radieux que les femmes apportent d'ordinaire dans toutes leurs affections, mais elle n'avait encore trouvé personne qu'elle pût aimer de cet autre amour immense qui tressaillait en elle. C'était un poème que sa vie de jeune fille. Elle naissait à peine au monde, tout lui apparaissait nouveau et charmant, et son âme avait des pudeurs dont le sens lui échappait à elle-même. Monsieur de Nogent, qui n'était pas poète comme Lucien et se contentait d'être riche d'une soixantaine de mille livres de rente, n'avait pas trop à se plaindre de Berthe. La jeune fille était avisée. Sans avoir de données bien certaines sur la fortune de son père, qui ne s'était jamais bien expliqué à cet égard, elle soupçonnait en partie la vérité. Ce changement de nom mal motivé, la tristesse croissante de Monsieur de Létiol, ses discussions de plus en plus fréquentes avec Michaud, qu'elle regardait dans son ignorance comme le principal auteur de leur opulence subite, lui faisait craindre un second changement aussi terrible que le premier avait été inespéré. Un riche mariage pouvait seul éterniser, pour ainsi dire, son état présent si plein de charme pour elle, et sa conduite avec M. de Nogent était d'accord avec cette conclusion. Elle jouait à ravir la comédie de l'amour. Elle se parait, froide et ambitieuse, d'une sensibilité factice qui se montrait d'autant plus à propos qu'elle était calculée. Tout cela, du reste, était un rôle joué, mais non appris, car la nature l'avait faite comédienne. Au bout d'un mois, Aymar était amoureux fou, et presque tous les jours, Mademoiselle de Nogent venait prendre Berthe pour aller au bois. Elles étaient seules dans la voiture, Aymar les escortait à cheval. Un soir, que leur promenade s'était prolongée jusqu'à la nuit, la pluie les surprit aux Champs-Élysées en calèche découverte. Elles firent prendre le galop à leurs chevaux. En passant sous le premier réverbère de la place de la Concorde, elles entendirent un cri poussé près de la portière. Berthe tressaillit, elle avait cru reconnaître la voix de Lucien. Pendant tout le reste de la route, elle fut rêveuse. À plusieurs reprises, elle pencha sa tête à la portière, et il lui sembla voir au loin un homme courant dans la boue et faisant des efforts désespérés pour suivre l'équipage lancé au galop. Le tressaillement de Berthe, le cri poussé par Lucien ou par celui que Berthe avait pris pour artiste de la rue de l'Ouest, tout cela frappa Émilie, et quand Berthe se pencha à la portière, elle imita son mouvement et regarda comme elle. Mille équipages sillonnaient les boulevards encombrés, et l'homme suivait toujours obstinément. Et à travers les premières ombres de la nuit, on eût pu croire que son regard s'était allumé pour suivre et fixer la voiture qui emportait Berthe. Émilie regarda la fille de M. Langlade. Celle-ci était fort pâle et évitait le regard de M. le comte Aymar de Nogent, qui du reste ne se doutait de rien. Enfin, on arriva à l'hôtel. Berthe jeta un regard inquiet des deux côtés de la rue, mais elle ne vit personne. Le souvenir de Lucien avait produit sur elle un mouvement qui ressemblait à un remords. Il l'aimait tant, ce Lucien. Mais en même temps, une vision repoussante avait passé devant ses yeux. Elle avait revu la petite chambre de l'artiste aux meubles rares, et plus que modeste. et elle s'était vue elle-même en robe d'indienne. Monsieur et mademoiselle de Nogent s'étaient retirés. Berthe était seule, paresseusement étendue sur une causeuse. Après cette pluie qui l'avait glacée, après cette réminiscence de misère qui l'avait attristée, elle savourait le luxe qui l'entourait de toutes parts. Le luxe, c'est-à-dire pour elle, le bonheur. Une jeune camériste, à la figure avenante, à la taille souple et provocante, allait et venait, rangeait les fleurs, et remettait chaque chose à sa place. « Lise, lui dit tout à coup Berthe, en tournant nonchalamment la tête, que faites-vous donc là ? Je range, mademoiselle. Monsieur de l'Étiole est-il rentré ? Oh, pas encore, mademoiselle. Il n'est venu personne me demander pendant mon absence ? Non, personne. En avez-vous encore pour longtemps ? Ah ben, je me retirerai dès que mademoiselle le désirera. » Berthe regarda un moment la camériste avec attention. « Savez-vous, Lise, reprit-elle presque aussitôt, que vous avez là un bonnet charmant ?»« On me l'a déjà dit, repartit Lise, et vous sied à ravir. Mademoiselle est bien bonne. C'est une nouvelle emplette ?»« Oh, c'est mieux que cela, mademoiselle. » « Qu'est-ce donc ? Un cadeau ? Vraiment ?» Un sourire ironique effleura les lèvres de Berthe. « François est donc bien riche qu'il vous fait de pareils présents ? » dit-elle avec une indifférence affectée. Lise fit un petit mouvement de tête qui ne manquait ni de grâce ni de vanité. « Aussi n'est-ce pas à François que je le dois ? » répondit-elle effrontément. Et à qui donc ? À monsieur de Nogent ? Berthe fit un geste d'étonnement. Lise s'en aperçut, elle sourit. Vous êtes coquette, mon enfant, reprit Berthe après un moment de silence. On m'a souvent dit que j'étais jolie, repartit la camériste. Vous le seriez davantage si vous le saviez moins. Oh, un peu de coquetterie ne nuit jamais, mademoiselle le sait bien aussi. Qu'est-ce à dire ? Berthe eut un regard singulier. C'est-à-dire, mademoiselle, que je connais un jeune homme qui se meurt d'amour. Pour vous ? Oh non, je ne parle pas de François. Et de qui parlez-vous donc ? De monsieur de Nogent. Il vous l'a dit ? Il m'a du moins prié de le dire. À qui ? À mademoiselle de l'Étiole. Berthe se tut. L'effronterie et l'aplomb de Lise l'effrayaient. Et cependant, elle ne pouvait se résoudre à lui imposer silence. Lise était une fille adroite et qui avait appris le monde. Elle avait 20 ans à peine, mais elle avait déjà bien vécu. Elle comptait des phases diverses et nombreuses dans son existence et connaissait surtout de Paris les quartiers où la vie est heureuse et facile. On eût dit la Dorine du XVIIe siècle, transportée au milieu de la société moderne. Elle était accorte, vive, à l'œil mutin, au geste hardi. On ne pouvait pas dire qu'elle fût précisément jolie, mais elle avait une tournure agaçante, un minois éveillé, une allure spirituelle, toutes les qualités qui s'acquièrent dans l'intimité des filles du diable. Lise avait commencé par fréquenter les ateliers. Elle s'était faite artiste. Puis elle avait monté, puis elle avait descendu. Des transformations mystérieuses. Elle était bonne fille, au fond, cependant, bien que son cœur ne l'embarrassât guère. Une fois, pourtant, elle avait failli aimer. Elle ne l'avait dit à personne. Elle en était presque honteuse. Mais, bof, Lise était une fille d'ordre et l'amour vrai coûte trop cher. De temps en temps, elle y pensait bien encore, mais cela durait peu. Cependant, Berthe comprit combien il était imprudent d'accorder une si grande liberté de langage à une femme de chambre, et quand elle releva la tête, son regard s'adressa avec sévérité à la jeune camériste. « Lise, lui dit-elle d'une voix presque sèche, votre indiscrétion pourrait passer pour de l'impertinence. À l'avenir, vous aurez soin de ne vous charger d'aucune commission de cette sorte. » Et je vous préviens que si cela se renouvelait, je n'aurais pas toujours pour vous les mêmes bontés. Mais qu'ai-je donc fait de mal ? Demanda Lise avec un étonnement parfaitement joué. Ai-je besoin de vous l'apprendre ? Je croyais servir mademoiselle. Assez. Et puis, il y a peut-être une chose que mademoiselle ignore.
Laquelle ?
C'est que M. de Nogent n'est pas le seul qui m'est engagé à vous parler de lui.
Berthe se redressa avec vivacité.
Quelqu'un vous a invité à me parler de M. de Nogent ? Dit-elle avec une sorte de terreur vague.
Oui, mademoiselle.
Et qui cela ?
Je ne sais si je dois le dire.
Vous hésitez quand je vous l'ordonne ?
On m'a recommandé d'être discrète.
Je tiens à connaître le nom de celui qui prend en intérêt à ma personne.
Eh bien, parlez.
C'est Monsieur Michaud.
Lui ? Mais quel motif ?
Lise allait continuer sans doute ses confidences. Quand un grand bruit s'éleva tout à coup à la porte. Deux laquais venaient d'entrer et cherchaient à barrer le passage un troisième individu de haute taille, dont la tête pâle apparut aussitôt dans l'embrasure de la porte. Berthe jeta un cri de détresse. Les deux laquais, poussés avec une violence irrésistible, chancelèrent, et le nouvel arrivant entra dans la chambre.
C'était Lucien.
Lucien, les cheveux épars, sans chapeau et couvert de boue. Berthe mesura d'un coup d'œil l'étendue de son danger. Lucien devait être outré. Trois personnes, trois domestiques allaient être mis dans la confidence de sa faute.
Ah, vous m'avez fait peur, Lucien. Dit-elle en souriant.
Les trois valets dressèrent l'oreille, et Lucien s'arrêta, étonné.
« Fou que vous êtes !»
ajouta la jeune fille avec une voix où lui seul pouvait démêler une prière.
« Oh, je vous reconnais bien là. Jamais rien comme les autres. Mais pourquoi n'avoir pas dit à ces gens votre nom ? Ils ne sont pas forcés de savoir la parenté qui nous lie. »
« Allez, continua-t-elle en s'adressant au domestique, et souvenez-vous de la figure de mon cousin, M. Lucien de Bressan. » Lucien restait immobile, dans un état de stupéfaction que rien ne pouvait peindre. Les valets tournèrent le dos, non sans se confondre en saluts et en excuses. La femme de chambre les suivit, mais avant de disparaître, elle jeta sur Lucien un regard où il y avait encore moins de curiosité que d'étonnement. Chapitre 7 Rencontre Suite. Cependant, Lucien regardait fixement Berthe et semblait attendre l'explication de cette énigme. Quand les domestiques se furent éloignés et qu'elle se vit seule avec Lucien, Berthe se leva.
Son visage exprimait en ce moment une joie mêlée de crainte, et son regard à demi voilé n'osait encore s'arrêter sur le jeune sculpteur. Quant à ce dernier, tout ce qui venait de se passer était pour lui comme un rêve. Il avait suivi la voiture à travers les boulevards, parce qu'il avait cru y reconnaître Berthe, et avait franchi le seuil du salon sans se demander précisément où il allait ni ce qu'il allait faire. Il avait cru reconnaître Berthe, et cela lui suffisait. Mais quand il eut vu Berthe, belle, calme et froide, quand il eut entendu le son aimé de sa voix, quand il ne put plus enfin douter de la réalité de sa présence, il crut faire un rêve pénible et se demanda un instant s'il était bien réellement éveillé. Berthe, c'était bien Berthe au milieu d'une opulence princière. Oh, mais que s'était-il donc passé? Que pouvait-il espérer? Que devait-il craindre? Et comme son cœur violemment agité hésitait entre mille suppositions contraires, il attendit. Berthe avait fait quelques pas pour se rapprocher de lui, et pour la première fois, elle releva son beau regard et le posant un instant sur le front pâle de l'artiste. « Lucien, lui dit-elle d'une voix émue et tendre, je ne vous reproche rien. Vous avez pu croire que je méritais votre colère, et par cela seul je l'ai méritée. Cependant, malgré ce qui s'est passé, malgré mes torts, malgré votre colère, je ne puis croire encore que vous ayez voulu me perdre. » Il y avait dans le sourire de Berthe, tandis qu'elle parlait ainsi, une résignation calme, angélique. L'indignation de Lucien ne put résister, sa colère s'apaisa comme par magie, et il passa péniblement la main sur son front. « Mais j'ai voulu vous voir, » dit-il d'une voix brisée. « Je vous avais perdu si inopinément, j'étais si seul, si malheureux. Oh, je vous cherchais depuis qu'une volonté plus forte que la mienne m'a séparé de vous, » interrompit Berthe. Vous parlez de vos souffrances, de votre douleur, de votre isolement, Lucien. Et vous ne croyez peut-être que moi, je ne souffrais aussi, que je pleurais en silence, et qu'au milieu de cette opulence même, mon regard se reportait avec joie vers la petite chambre de la rue de l'Ouest, où nous nous sommes aimés, et que je me reprenais à regretter ce temps heureux où j'étais pauvre et libre. « Oh, j'ai été bien malheureuse, allez !» Lucien était jeune et bon. Il sourit tristement à ces paroles de Berthe, et l'espoir éteint se ralluma un instant dans son cœur ému. « Vous ne m'aviez donc pas oublié ?» demanda-t-il en tremblant. « Moi ?» interrompit Berthe. « Et pourquoi et comment ?» Vous aurais-je oublié, mon ami? Chaque jour, je formais mille projets insensés. Je voulais aller vous voir, vous écrire, que sais-je. Mais ici, on me surveille. Le monde dans lequel je vis maintenant a ses exigences tyranniques. Je ne puis faire un pas seul. Ah, j'ai bien souvent maudit cette réserve qui m'est imposée. Mais puisque vous voilà, je n'ai plus le courage de résister à l'élan de mon cœur. Et si grande que soit votre imprudence et la mienne, Lucien, vous le voyez, je brave le monde et je vous dis, restez. » Lucien avait écouté Berthe avec attention. Ses premières paroles le ramenaient à une autre époque de sa vie, et il se revoyait encore, artiste heureux et aimé, travaillant avec ardeur sous les regards de la jeune fille. Mais, malgré l'habileté avec laquelle cette dernière cherchait à déguiser la pensée réelle qui l'animait. Le jeune artiste sentit cependant un frisson glacial pénétrer tout à coup ses membres quand il eut fini de parler. Les dernières paroles de Berthe disaient trop ouvertement ce qui se passait dans son cœur, et Lucia avait trop de méfiance encore pour que l'intention ne fût pas saisie. Lucien comprit, et il se redressa froid et presque fier. « Vous avez raison, » dit-il d'une voix ferme, « vous avez raison. Cette entrevue pourrait vous compromettre si elle se prolongeait davantage. Je ne veux pas vous fatiguer plus longtemps de ma présence. »«
Me fatiguer ?» s'écria Berthe.
« Oh, tenez !» reprit Lucien avec une amertume presque dédaigneuse. « Il est inutile de dissimuler sous des dehors menteurs le changement profond qui s'est opéré. Moi, Berthe, j'avais mis en vous l'espoir de ma vie entière, et je suis encore l'homme que vous avez connu, un artiste qui n'a que son cœur et sa pensée, dont le cœur n'a cessé de vous aimer, dont la pensée a conservé intacte votre pure et sainte image. » J'ignore ce qui s'est passé, Berthe. J'ignore pourquoi, après vous avoir connu pauvre et simple, je vous retrouve aujourd'hui riche, heureuse, et plus belle encore peut-être, la joie dans les yeux et le mensonge sur les lèvres. Mais ce que je sais, ce qui me tuera, c'est que vous ne m'aimez plus, et que je doute même que vous m'ayez jamais aimé.
Moi ? « Je ne l'aime pas, balbutia Berthe.
« Oh, vous savez mentir !» interrompit le sculpteur en montrant la porte, comme pour appeler son entrée le mensonge fait au valet. Puis, ayant parcouru silencieusement du regard les tentures élégantes et les meubles précieux, il ajouta, d'une voix sombre et pleine de sanglots mal contenus, d'ailleurs, je me rends justice, moi, il y a entre nous une distance infranchissable qui vous séparera jamais. Oh, vous êtes trop riche maintenant.
Ce mot portait trop juste pour ne pas blesser vivement la jeune fille.
Vous ai-je donc parlé de cela ?
Demanda-t-elle avec dépit. Puis, subitement fâché d'avoir fait cette question, qui pouvait prolonger l'entrevue, elle ajouta aussitôt
« Nous n'avons qu'un instant pour nous voir, et vous le passez à m'adresser des reproches. »
À ces paroles, qui témoignaient bien clairement des sentiments qui agitaient Berthe, Lucien fut sur le point d'éclater en sanglots. Mais il eut cependant encore assez de force sur lui-même pour se contenir. « Vous avez raison, » dit-il d'une voix brisée. « Je suis resté trop longtemps déjà. Un dernier mot, cependant, avant que je m'éloigne, et cette fois pour toujours. J'ignore la source de cette fortune subite qui vous enlève à moi. Je veux l'ignorer. » Mais si plus tard vous aviez besoin d'aide, si ce qu'à Dieu le plaise, le malheur ne veut jamais vous éprouver de nouveau, souvenez-vous de moi, Berthe. Je puis encore vous aimer malheureuse. » Et à ces mots, il se dirigea lentement vers la porte. Mais Berthe avait fait un geste d'effroi. Elle courut vers lui et lui dit à voix basse, « Écoutez !» Des pas venaient de se faire entendre dans la pièce voisine.
Oh, il est trop tard, continua la jeune fille, que l'angoisse faisait trembler comme une feuille. C'est mon père, Lucien. Au nom du ciel, laissez-moi une dernière chance de salut. Quoique je dise, ne me démentez pas, et n'appelez plus mensonge des paroles arrachées par la nécessité.
Lucien s'inclina sans répondre et remonta le salon avec Berthe. Monsieur de Létiole entra. Il croyait trouver Berthe seule, Son visage était à moitié souriant. Les rides soucieuses qui le matin encore plissaient son front avaient disparu. Il avait pour sa fille un maintien grave et doux qu'il savait prendre quand il voulait. Berthe était, elle, au contraire, profondément agitée, et son regard interrogeait anxieusement la physionomie de Lucien. Ce dernier avait recouvré tout son sang-froid. Il se tenait calme et digne au milieu du salon, cachant sous des dehors pleins de froideur la curiosité dont il était dévoré. En apercevant quelqu'un, M. de Létiol s'arrêta et jeta sur le jeune artiste un regard d'étonnement et de soupçon. « Quel est cet homme ? » demanda-t-il tout bas à Berthe. « Monsieur de Bressan, veuillez pardonner, » murmura celle-ci de manière à être entendue de son père. « Que veut dire ?» Berthe s'approcha de son père et se penchant mystérieusement à son oreille. « Cet homme connaît monsieur Danglade, » lui dit-elle d'une voix rapide et basse. L'étiole recula comme s'il eût marché sur un serpent. Puis son regard examina Lucien, et comme les quelques mots que lui avait dit sa fille annonçaient un danger qu'il fallait conjurer à tout prix, il salua le jeune sculpteur avec une politesse presque franche. « Monsieur, lui dit-il en faisant quelques pas vers lui. « Chut !» fit Berthe à Lucien en affectant un mystère profond. « Laissez-moi faire, je vous expliquerai plus tard. » « Monsieur, continua-t-elle tout haut, est un artiste, un sculpteur. »« Et que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demanda de Létiol. « Rien, commençait Bressan, qui dès le début de cette scène soutenait impatiemment sa position fausse et se tenait droite et fière en face de monsieur Létiol. Berthe l'arrêta d'un regard suppliant. Monsieur désire de l'emploi et un nom, s'empressa-t-elle de répondre en se tournant vers son père. Vous pouvez lui faire des commandes. Dans vos salons, il trouvera. Sans doute, interrompit monsieur de Létiol avec son plus aimable sourire. Si monsieur veut me faire l'honneur de venir à mes soirées, je serai trop heureux. Merci. Dit sèchement Lucien. Et comme Berthe joignait les mains derrière son père, il ajouta « J'aurai quelquefois cet honneur. » Et il se dirigea vers la porte. Sur un signe de sa fille qui désirait être seule, ne fût-ce qu'un moment pour se recueillir, M. de Létiol reconduisit Lucien jusque dans le vestibule, avec une grande affectation de politesse. Là, remarquant l'état déplorable de son costume, il lui proposa sa voiture. Lucien refusa. Dès qu'il l'eut vu descendre l'escalier, M. de Létiol rentra vivement et s'élança dans la chambre de sa fille. « Mais me direz-vous comment cet homme est ici ? » demanda-t-il avec violence. « Le sais-je ? » voulut commencer Berthe, qui avait eu le temps de préparer une fable merveilleusement échafaudée. « Où l'avez-vous connu ?» insista M. Danglade. « Rue de l'Ouest ?» balbutia la jeune fille. « Rue de l'Ouest ?» répéta le père avec un éclair dans les yeux. « Nous tirerons un voile sur cette scène. » S'il est un tableau hideux et révoltant sous le ciel, c'est sans doute celui-ci, d'un père criminel en face de sa fille, ne trouvant pas un regret pour l'honneur compromis et rugissant de fureur, non parce que la faute amènerait la honte, mais parce que, cette fois par hasard, elle entraînerait une ruine avec elle. Cependant, Lucien avait descendu rapidement l'escalier, Il avait hâte de s'éloigner de cette maison où, un instant auparavant, il avait cru retrouver le bonheur. En passant sous le vestibule d'entrée, il s'entendit appeler. Il se retourna avec un frémissement. Une jolie souvrette était à deux pas de lui et lui souriait. « Vous me connaissez ?» lui dit le jeune sculpteur après quelques secondes d'hésitation. « Ben, il paraît que vous ne me reconnaissez pas, vous !» repartit la jeune soubrette avec une petite moue qui ajoutait un charme de plus à sa beauté. « Attendez donc, cherchez bien. Je me rappelle... rue de l'Ouest, Lodoïska !»« Chut !» fit la jeune fille en souriant finement. « Ici, on m'appelle Lise. » La mémoire revenait tout à fait à Lucien. Il avait connu Lise il y avait 4 années. Depuis, il l'avait complètement oubliée. « Lise ? » dit-il avec surprise. « Et pourquoi ?»« En changeant de condition, j'ai changé de nom. »« Tu es donc en service ?»« Chez mademoiselle de l'Étiole ?»« Chez Berthe ?» « Ah, il paraît que vous l'avez reconnue, celle-là !» dit la soubrette d'un accent de reproche. Le jeune sculpteur avait été sans s'en douter l'une des passions de Lise. Elle ne le lui avait jamais avoué, et lui s'était bien gardé de s'en apercevoir. Bien que 4 années se fussent écoulées, la jeune fille se souvenait encore. Mais Lucien avait autre chose en tête. Lise était chez Berthe et il voulait tout savoir. Il lui prit la main. « Écoute, Lise, dit-il, au milieu de cette opulence qui entoure Berthe, au milieu de ces fêtes, de ce bruit, de ce luxe, dis-moi, n'as-tu pas surpris quelquefois une ombre sur son front, une tristesse dans son cœur ? « Oh non, jamais. Mais toi qui as le privilège de pénétrer à toute heure près d'elle, tu ne l'as jamais vue essuyer une larme ni étouffer un soupir ? Oh, pas du tout. Ainsi, tu la crois heureuse. Elle est si riche. Monsieur de l'Étiole adore sa fille. Les plus beaux cachemires sont pour elle les plus riches parures, les plus magnifiques dentelles. » Des chevaux, des voitures, des bals, des spectacles. Et le moyen que mademoiselle Berthe s'ennuie avec cela. Tu as raison. Il n'y a pas autre chose au monde pour une femme. Tu crois ? Lucien prit sa tête dans ses mains et resta quelques instants taciturne et pensif. Allons, allons, monsieur Lucien. Reprit Lise d'un ton de compassion comique. « Je vois où ça vous gêne. »« Que veux-tu dire ? » fit Lucien. « Ben, vous êtes amoureux. »« Quand sais-tu ? » ?»« Oh, ça se voit bien. »« Et quand cela serait ?» Lise secoua la tête d'un air boudeur. « Ben, ce serait malheureux pour vous, » continua-t-elle. « Mademoiselle Berthe est dans une position où les maris ne lui manquent pas. Monsieur de l'Étiole a d'ailleurs des vues sur elle. Et puis, tenez, voulez-vous que je vous parle avec franchise ? Parle. Eh bien, il me semble que tout à l'heure, elle ne paraissait pas charmée de vous revoir. » Ce que Lise venait de lui dire, Lucien l'avait déjà pensé. Et si, en ce moment, il était là, le cœur brisé, le désespoir dans l'âme, c'est qu'il comprenait bien que Berthe était perdue pour lui. Que lui importait, et la distance qui les séparait, et les obstacles que le monsieur de l'Étiole eût pu mettre entre eux. L'amour de Berthe eût comblé la distance et surmonté les obstacles. Mais Berthe avait jeté l'oubli comme un linceul sur le passé. Ce passé était bien mort. Il ne devait plus vivre. Lucien fit un effort suprême. « Tu as raison, » dit-il à Lise. « Il y a désormais entre Berthe et moi tout un abîme. Il faut y renoncer. » « Et s'en consoler, surtout, » ajouta Lise. Lucien regarda la jolie soubrette qui souriait d'un air mutin, et il s'éloigna rapidement en lui faisant un dernier geste d'adieu.